Nicolas Delage, bonjour. Merci d'accueillir Liberté FM.
Ben écoutez, merci Pascal. Heureux de vous retrouver une petite année plus tard.
Voilà, donc on va faire un petit point sur les travaux parce que la restauration se poursuit. Est-ce qu'elle avance au rythme où vous le souhaiteriez?
Alors, depuis la dernière fois où vous êtes venu, on a quand même bien avancé sur la tour nord-ouest qu'on a fini de couvrir. On a posé la charpente de la tour d'escalier, on a couvert cette charpente. On a pu finir quelques huisseries dans la tour nord avec des vitraux. Et puis, surtout depuis janvier 2025, on s'est attaqué à la tour sud-ouest, qui était un cylindre vide et sur lequel, en fait, il y a beaucoup de travaux. Donc, toutes les parties du... qu'on appelle les parties sommitales, c'est-à-dire le mur parapet, les corbeaux, le mur de refend, sont déjà en fait prêts. On va bientôt poser ce qu'on appelle le mur parapet, même s'il est taillé, il n'est pas posé encore. Et puis viendront en fait les poutres avec des gros engins pour les descendre dans ce cylindre parce que pour pouvoir en fait alimenter les différents étages. Et puis quand on aura posé ces poutres, on ira poser la charpente et ça, je pense que c'est prévu pour le mois de mai ou le mois de juin de cette année avec une couverture, j'espère, qui démarrera, je pense, début septembre. Voilà.
Donc, pour qu'on comprenne bien, c'est que les échafaudages donc, ont été montés pour consolider, préserver cette tour et surtout l'enfilade de cheminée parce que c'est quand même assez impressionnant aussi. Il va falloir les démonter pour mettre les parquets et remonter après.
Oui, tout à fait, puisqu'en fait, on va positionner les poutres, il va falloir défaire cet échafaudage intérieur. Donc ça, c'est quand même c'est du boulot, parce que c'est du temps, hein, de monter des échafaudages. Et puis, quand on les aura posés, il faudra qu'on les remonte, parce qu'il va falloir que les maçons puissent accéder pour pouvoir nettoyer les enduits, les refaire ou les réagréer quand c'est possible, quand on peut conserver... je dirais ces enduits, mais oui, c'est un travail important et on ne pourra pas en fait retravailler les enduits tant qu'on n'aura pas posé la charpente et une couverture, parce que le but quand même quand on pose des enduits, il faut plus qu'il y ait d'eau qui arrive. Hein. Donc c'est voilà, ça sera pour un peu plus tard, mais c'est le dernier gros élément majeur qu'on voit d'extérieur. Et puis, on peut se dire que peut-être à fin décembre 2026, au niveau esthétique extérieur, eh bien, on retrouve en fait l'herbe tel qu'il était, je dirais, jusqu'au mois de la moitié du XVIIe siècle, hein, je dirais de 1530 à 1600, enfin, jusqu'à son démontage. Hein, son démontage, c'est plutôt 1811-1830. Mais voilà, on retrouve la volumétrie d'origine. Et c'est quand même chouette, hein, parce que c'était un pari qui n'était pas gagné. Et je suis heureux de pouvoir en fait mener ce projet à terme. Et après, bien sûr, on aura beaucoup de travaux intérieurs. On a des sols, on a des carrelages, on a des petits travaux de reprise. On aura la cage d'escalier intérieure, même s'il n'y a pas énormément de travaux, il va falloir en fait s'en occuper. Donc il nous reste encore une belle dernière sixième tranche dans le château, je dirais pour 2027, quoi, vraiment. Et puis, ce qui restera après à faire, c'est pas des moindres, hein, c'est qu'il va falloir aménager cette plateforme, enlever quelques arbres, positionner un pont, puisque l'accès se fera dans un endroit différent que tel qu'il est en place aujourd'hui, pour des raisons principalement... je dirais pour amener les fluides et pour faire ressortir ces fluides, c'est-à-dire eau, électricité, parce que on ne veut pas de foyer dans le château, on veut que tout ce qui est chaudière, etc., soit à l'extérieur, tout ce qui est aussi tableau électrique, ça aussi à l'extérieur. Le but, c'est de minimiser tous les risques incendies. Et puis surtout, on a un problème à l'herbe, c'est qu'il faut traverser les douves. Et si vous ne mettez pas, je dirais, un pont sous lequel vous ferez passer, sous le tablier du pont, vous ferez passer en fait tous ces aménagements, eh bien, en fait, il faut creuser les douves. Et là, c'est compliqué, très compliqué.
Les douves qui existent.
Qui existent, bien sûr.
Alors qui en ce moment sont pleines d'eau, là.
Alors là, elles sont comme j'aime, voilà. Elles sont exactement comme j'aime. Et c'est pour ça on tâchera de faire venir le ministère de la Culture pour voir ce que ça donne quand elles sont pleines d'eau. Parce que le but, c'est à terme de remettre des douves en eau. Ça a beaucoup d'avantages, on l'a déjà dit, mais ça permet en fait de laisser une pression à l'intérieur de la douve et de permettre la solidité en fait des deux versants de la douve. Ça permet bien sûr en fait une sécurité puisqu'on ne peut pas la traverser aisément. S'il y a un côté aussi esthétique. Et puis dernière chose et pas des moindres, c'est qu'on est quand même dans des périodes où maintenant, entre l'été et l'hiver, il y a des changements hygrométriques qui sont terribles. Vous n'avez qu'à voir les dégâts que ça peut poser dans beaucoup, beaucoup de maisons. Mais un château reste une maison. Donc, de garder un peu d'humidité à la plateforme, ça a un sens. Donc voilà, ça fera partie aussi de cette dernière tranche de travaux. Comme, je dirais, l'aménagement des ruines qui sont à l'extérieur. Pour partie, elles seront végétalisées. Pour partie, on va reconstruire un petit bâti autour du sol empisé de l'ancienne chapelle. Et puis, il faut trouver aussi un chemin, un peu de parcours. Donc, il y a encore du travail, mais on espère que, voilà, en 2029, on sera prêt. Alors, je rêverais d'ouvrir en juillet 2028. Maintenant, vu les intempéries actuelles, avec les difficultés pour les entreprises à intervenir, il est possible qu'on prenne un peu de retard, mais bon. Si on ouvre en 2029, c'est un projet qui aura pris, entre la conception et la réalisation, c'est un projet qui aura pris 11 ans. Je pense que, c'est long et il me tarde aussi, en fait, de passer à l'étape suivante, qui est, en fait, l'ouverture au public, la mise en place, en fait, de petits événementiels et d'un gros événementiel, pour lequel on réfléchit beaucoup, on travaille, on regarde ce qui se fait aussi dans la région, parce que le but c'est de proposer quelque chose de différent, d'original. Voilà, l'Herme, c'est un peu aussi une particularité dans les châteaux en fait de Dordogne. On est dans un château qui est entièrement construit d'un seul jet, qui est dans son état d'origine, puisqu'en fait, même si on l'a restauré, il n'y a eu aucune transformation au 16e, 17e, 18e, 19e ou 20e. Hein. Donc voilà.
Vous aviez des documents aujourd'hui pour faire les travaux et la restauration?
Oui, beaucoup. Les en fait, ce qu'on avait, ce qui nous a servi, ce sont les inventaires. Chaque fois qu'en fait les familles nobles se passaient, transmettaient le monument à la génération suivante, on avait comme un notaire ou commissaire-priseur, on va dire peut-être une fonction mixte, qui venait inventorier tout ce qu'il y avait et qui décrivait dans quel état était le monument. Qui fait qu'on avait une foultitude de renseignements pour pouvoir dire, bah oui, là on sait qu'il y avait un pisé, là on sait qu'il y avait des lucarnes, là on sait que c'était décoré de telle ou telle façon. Donc on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments. Et ça, je dois dire qu'aussi, c'est tout le travail de Madame Palluet, la précédente propriétaire, qui a fait aussi beaucoup de travaux de recherche historique et qui nous ont beaucoup aidés. Ça nous a permis aussi de permettre à ce que la DRAC s'intéresse et autorise cette opération, puisqu'elle était très documentée. Voilà.
Ce qui veut dire, dans la fiction, que si la famille Calvimont, qui est à l'origine de la construction, revenait, ne trouverait pas vraiment de changement. Je parle du bâtiment, pas du mobilier, bien sûr.
Alors, je peux toujours vous dire qu'effectivement, je n'en trouverai pas, parce que, comme il n'y a aucun témoin de cette époque, personne ne va venir me contredire. Alors après, il y aura toujours... On a des visiteurs aguerris qui parfois font des remarques qui sont pas fausses. Hein. Par exemple, je peux citer l'exemple de la charpente qui est magnifique, hein, celle qui a été posée par les ateliers Férignac, mais certains visiteurs me disent, est-ce qu'on est certain que les bois étaient, même s'ils sont très simplement décorés, est-ce qu'ils étaient moulurés à cette époque? Est-ce qu'on n'était pas dans quelque chose? Là, on peut pas rentrer dans ce détail-là. Comme, par exemple, dans la salle des gardes, on a repositionné un pisé. Est-ce que le pisé, il avait ce dessin au sol? Impossible à dire. Mais, en fait, ce qui compte, c'est surtout l'esprit. Et dans l'esprit, je pense que monsieur et madame de Calvimont très satisfait. De toute façon, ils sont sur la façade, hein, puisqu'on a leur visage sur la façade en pierre. Et chaque fois que je rentre dans le château, je les regarde, je les salue. Et pour l'instant, en fait, ils n'ont jamais fait de signe de désapprobation.
De toute façon, tout château a évolué au fil des siècles et des familles et des propriétaires.
C'est vrai. Il y a eu souvent des ajouts. À l'Herme, la chance qu'on a eue, c'est qu'il n'y en a pas eu. Et c'était aussi... un choix de ma part, hein, quand j'ai choisi l'Herme, c'est que je voulais un monument qui n'ait pas du tout été restauré. Je voulais un monument dans son jus, dans la même époque, dans une époque. Je ne voulais pas faire de choix sur le 17e, le 18e, le 16e. Donc on est resté dans quelque chose vraiment brut, très proche de l'origine. Mais bien évidemment, les châteaux, ils ont vécu et donc il y a eu des ajouts. Il suffit de se promener en fait dans la plupart des châteaux, je dirais, de Dordogne, et vous, si vous êtes un peu attentif, vous allez vous rendre compte qu'il y a des parties qui sont pas du tout d'origine. Et c'est vrai partout. On va pas citer de nom, mais c'est vrai partout. Le seul qui a peut-être fait un effort, enfin, c'est pas le seul, mais un des faits qui ont fait un effort pour revenir à l'état de un petit peu l'état brut, c'est peut-être Bénac. Le château de Bénac, qui effectivement, les propriétaires précédents ont fait un travail énorme de nettoyage des périodes postérieures, et je trouve que c'est quand même plutôt assez réussi. Voilà.
À propos de restauration dans la tour, donc, qui est en cours de restauration, et les murs. Et sur les murs, vous m'avez fait remarquer, alors peut-être que l'œil qui n'est pas aguerri ne l'a pas forcément remarqué, mais on voit encore des traces qui, m'avez-vous dit, sont d'origine pour représenter des pierres. Et il y a encore cette peinture ocre rouge qui est là.
Oui, en fait, dans la tour, comme en fait dans beaucoup d'endroits à l'herbe, hein, dans la salle basse ou salle des gardes, on avait en fait tout un décor gris, sur fond gris avec des lignes blanches qui représentent en fait les pierres de taille de l'époque. Dans les tours, dans une des tours, c'était plutôt un fond blanc avec des doubles lignes rouges. Et ce qui est amusant, c'est qu'on retrouve en fait exactement le même type de décor à la chapelle Fauché. Si vous allez voir la chapelle Fauché, je vous encourage d'ailleurs à aller le visiter parce que c'est un château, alors certes il a brûlé, mais il reste encore des choses magnifiques et il y a beaucoup de points communs entre l'herbe et la chapelle Fauché, et notamment ce type de décor existe là-bas. Donc c'est des décors en fait, certainement en fait du milieu du 15e jusqu'au peut-être milieu du 16e, et voilà, on est sur des moellons, on fait un enduit et pour paraître un peu... ben voilà, chic ou au moins esthétique, on redessine des pierres de taille qui n'existent que dans les embrasures et dans les coins des murs. Ça n'existe pas autre part. Le reste, c'est du moellon.
Et malgré les intempéries, puisque pendant des décennies, il n'y a plus eu de toiture ici à l'herbe, ça a été conservé en partie, évidemment.
Alors, dans la pièce sur laquelle en fait on a pu visiter tout à l'heure ensemble, ce qui est vrai, c'est que là on a une importance de décor encore en place qui est considérable, peut-être plus importante que dans la salle basse pour laquelle on a pour partie restitué ou restauré ces décors. Donc là, l'idée, c'est en collaboration avec le ministère de la Culture, c'est peut-être qu'il nous autorise au moins dans cette pièce-là, parce qu'il est possible qu'il y en ait eu en dessous ou au-dessus, mais au moins dans cette pièce-là, qui nous autorise en fait à le reprendre d'une façon très discrète, mais en filigrane, pour qu'on conserve l'état d'esprit. Mais si on y réfléchit, ce type de décor, on les a aussi dans les latrines. Dans les latrines, on était sur plutôt des lignes blanches sur des fonds ocre. Alors maintenant ils sont ocre, est-ce qu'à l'époque ils étaient chaulés et puis la chaux est tombée, c'est compliqué à dire, mais en tous les cas je pense que c'est le matériau d'origine, parce que je vois pas comment les lignes auraient pu rester si elles étaient peintes directement en fait sur un enduit de chaux. Donc non, l'herbe était vraiment décorée avec cette particularité des faux appareillages, des dessins de faux appareillages de pierres de taille, et c'est vrai que c'est intéressant. Et puis c'est passionnant, c'est très émouvant quand on rentre de près dans la pièce, que vous retrouvez en fait ces décors d'origine, vous imaginez très bien comment cette pièce pouvait vivre, comment elle pouvait être décorée, etc. Et c'est ce qu'on va essayer de faire sur ce château, parce que ça, c'est un gros boulot que je mène, c'est de chiner en fait des éléments, que ce soit en fait des tables, du mobilier, que ce soit des tableaux, des tapisseries, de l'art statuaire, beaucoup de choses, et puis après des choses très simples, hein, des plaques de cheminée, des crémaillères. Donc il y a besoin d'une foultitude d'objets, et bon, je veux dire, je commence à en avoir,
pour le renouveler vraiment.
Oui, je commence à avoir, je pense que j'ai plus de la moitié de ce qu'il me faut. Voilà. Après, tout dépend comment on imagine les choses. Moi, j'imagine les choses pas forcément d'une façon très chargée, plutôt d'une façon épurée, qui nous ramène véritablement dans l'époque dans laquelle, je dirais, on vivait dans ce château, mais pas avec une foultitude, je dirais, d'objets. Alors, on aura quelques cabinets de curiosité où on peut positionner là beaucoup de choses, mais d'une façon générale, l'idée, c'est de beaux objets qui se suffisent à eux-mêmes, du beau mobilier qui permettent en fait de rejoindre les décors déjà existants dans ces pièces, puisqu'on a des cheminées qui déjà sont les décors de ces grandes pièces, et puis on a cet escalier majestueux qui prend toute la place. Donc ce qu'on apportera, il faut que ça soit à la hauteur de ce qui existe, et donc on va plutôt choisir d'être plutôt sur la qualité que sur la quantité.
Et un petit clin d'œil à Jacou. Parce que l'herbe, c'est Jacou le croquant, même s'il n'y a jamais mis les pieds, sauf dans la fiction.
Alors, on est juste à côté, Pascal, quand on se parle du cachot, où Jacou est enfermé dans le roman de Jeanne Leroy. C'est vrai que Jacou est quand même associé à l'herbe. Ça fait partie de la littérature. On lui a dédié une partie des vitraux au second étage. C'est aussi dans le cœur. C'est un souhait. C'était pas simple au niveau, en fait, je dirais, d'arriver à faire comprendre pourquoi on faisait ce choix-là. On l'a fait parce que on considère que dans l'histoire de l'herbe, la littérature en fait totalement partie. Et donc, on a voulu lui rendre hommage. Après, j'ai souvent dit dans des interviews qu'on n'en ferait pas un Jacques Houlande. Voilà, c'est pas du tout mon objectif. Mais par contre, c'est un vrai attachement en fait que l'on a nous ici, et puis surtout qui m'a été aussi beaucoup apporté par tous les visiteurs de l'herbe, puisque beaucoup de gens viennent aussi à l'herbe parce qu'on est dans la proximité avec Jacou. Il y a aussi parfois des parcours initiatiques. Donc, où on va à Fanlac.
Vous le comprenez ?
Ah, je comprends complètement. Et puis, moi, j'ai vu ce feuilleton étant petit, hein, puisque je l'ai vu, j'avais 7-8 ans. Hein. C'était particulièrement triste, particulièrement lourd à regarder, mais ça a eu un succès. Bon, à l'époque, je crois qu'on n'avait qu'une chaîne de télé, donc on n'avait pas le choix. Fallait le regarder, mais en tous les cas, c'était formidable. Puis vous voyez, bon, là, je suis en train de refaire dans le village une petite grange, et qui est en ruine, mais grâce au film de Jacou le Croquant, qui a été tourné dans le village. Il n'y a eu aucune scène tournée au château, mais dans le village, il y en a eu. Et bien, en fait, j'ai les photos exactes de cette grange, donc ça nous permet en fait de nous en inspirer. Donc bien sûr que Jacou fait partie de l'histoire de l'herbe, et que cette littérature et ce film incroyable qu'a fait Stelio Lorenzi marque ce monument. On ne peut pas dire le contraire.
Merci beaucoup, on va terminer cet entretien en parlant de l'ouverture, parce que exceptionnellement pour l'opération Château en Fête, mais aussi en septembre pour les Journées du Patrimoine, vous permettez au public de venir voir ce château et l'avancement des travaux. C'était important pour vous aussi, exceptionnellement, d'ouvrir, tant que les travaux ne sont pas finis, ce site.
Alors, dès le début, dès septembre 21, j'ai ouvert l'herbe à la visite. Alors, on a commencé, je dirais, petit, parce que bon, on n'était pas du tout rodé. Et puis on était encore dans une période un peu Covid, donc c'était un peu compliqué. Il fallait avoir en fait des masques, il fallait avoir des casques à l'époque de chantier, puisque c'était dangereux, donc il fallait les désinfecter. Donc ça a été compliqué. Je me souviens, la première ouverture de l'herbe, on a eu 150 visiteurs en 2 ou 3 jours. Là maintenant, on a 250 visiteurs par jour, mais si je pouvais en prendre 300 ou 350, je les aurais. Puisqu'en fait, beaucoup de gens s'intéressent, et notamment parce que l'herbe est dans le cœur des Périgourdins, et que c'est un château qui parle aux Périgourdins. Donc on a beaucoup, beaucoup de visiteurs Périgourdins qui viennent, surtout pour Château en Fête, pour les journées du patrimoine, on a peut-être un peu plus de gens qui viennent d'un peu plus loin, de Dordogne, ou plutôt de Nouvelle-Aquitaine, hein, ou de départements limitrophes. Mais là, à Château, en fait, c'est véritablement des Périgourdins qui sont là. On va ouvrir du 22 au 26 avril avec notre équipe, avec toujours, en fait, une expo photo, de nouvelles pièces à voir, de nouveaux décors. On commence aussi à amener un petit peu de meubles. Alors, pour l'instant, ils ne sont pas du tout là pour être positionnés de façon définitive, mais ce sont des meubles que l'ébéniste va venir, en fait, restaurer. Et comme je ne sais plus où les mettre, ben, on est bien obligé de les positionner quelque part. Donc, on est ravis, en fait, de faire cette ouverture pendant 5 jours. C'est aussi oui, on est obligé de réserver sur le site de LOA, mais là sur les ou sur le site de Château en fait. Hein, vous tapez en fait Château de l'Herme quand vous êtes sur Château en fait et vous allez trouver très facilement en fait à réserver. On est aussi content en fait parce qu'on se retrouve avec une petite équipe de 10 personnes qui m'aident depuis le début et qui ont pris à cœur ces visites, qui se sont formées. Que je continue à former au fur et à mesure en fait des nouveaux apports que l'on a et puis qu'on essaye, je dirais, d'orienter sur différentes thématiques, que ce soit l'architecture, que ce soit l'histoire, que ce soit en fait bien sûr le chantier, je dirais les travaux, et aussi un peu le comment en fait on vivait dans ce château en fait tout début Renaissance à cette époque. Donc voilà, on agrémente nos visites, qu'on essaye un peu d'orienter. Alors ce qui est intéressant, c'est que comme c'est laissé à la volonté de chacun, mais écoutez, une visite avec Nicolas ne sera pas la même que celle avec Eric, que celle avec Nicole, ou que celle avec Thomas, Romain, ou X ou Y. Hein. Donc on sera vraiment dans des choses qui sont adaptées, et où le guide en fait vous fera partager sa passion. Et d'une façon générale, on a un retour sur ces visites qui est dithyrambique. Après, il va falloir peut-être commencer à plus travailler sur la compréhension de comment les gens ressentent les choses. On fera peut-être un jour des enquêtes avant d'ouvrir complètement au public, parce que la façon dont on va ouvrir à terme au public, elle n'est pas encore fixée. Est-ce qu'on sera dans des visites guidées? Est-ce qu'on sera dans un mix de visites guidées ou de visites libres? Tout ça, c'est pas déterminé. Il y a beaucoup de considérations qui rentrent en jeu là-dessus. Donc, on va y réfléchir. Je voudrais juste terminer peut-être un dernier point. C'est que on est sur une opposition forte à un projet de photovoltaïque ou d'agrivoltaïque qui devrait s'installer à côté en fait de l'Herme, qui est énorme hein, puisqu'il fait à peu près 120 hectares. Alors on est heureux parce que la commune de Rouffignac, la communauté de communes de la vallée de l'Homme, en fait ils sont tous positionnés unanimement contre ce projet qui détruirait un peu les paysages d'un endroit qui fait partie en fait du label Grand Site de France. Donc ça, c'est quand même un point important. Et puis, je dirais qu'on a aussi beaucoup d'imagination, peut-être à terme, pour faire des circuits peut-être vélo, pour venir jusqu'à l'Herme dans un cadre qui soit superbe et où on ait le temps de découvrir ce château progressivement. Donc voilà, on se bat sur ce projet. C'est la préfecture qui a, je dirais, la main dessus, les clés. Je veux dire que les échanges avec la préfecture sont plutôt constructifs. Rien n'est encore établi, donc on ne sait pas si ce projet sera autorisé ou si au contraire, en fait, il ne sera pas possible. Nous, on espère qu'il ne sera pas possible. Mais en tous les cas, on s'y oppose fortement pour beaucoup de raisons, hein, que ce soit en fait bien sûr esthétique, autour d'un monument qui est classé monument historique, bien sûr parce que c'est au plein milieu de la forêt Barade, et je trouve que d'aller rajouter en fait des éléments industriels dans cet endroit qui a déjà été un peu attaqué par des coupes il y a une trentaine ou une quarantaine d'années. Donc l'idée, c'est quand même de préserver ce paysage. Puis je dis toujours, je pense que cette commune de Rouffignac, elle a déjà beaucoup donné au département. Elle a donné, en fait, je veux dire, le deuxième centre de déchets du département. Elle a déjà donné 15 ou 16 hectares de panneaux photovoltaïques. Je pense que, voilà, c'est pas l'endroit où on souhaiterait voir cette installation se dirait s'installer, enfin se positionner, pardon.
Merci beaucoup. Alors pour ces quelques mots sur au-delà du château de l'Air, mais en tout cas pour ces quelques minutes que vous nous avez accordées une nouvelle fois sur Liberté FM. Et puis je reviendrai pour voir l'avancement des travaux.
Bah écoutez Pascal, ce que je vous propose, la prochaine fois que vous venez à l'Air, je vous viendrai au mois de juillet. On aura certainement la charpente de la tour sud-ouest qui sera posée. Et souvent, en fait, fin juillet, le dernier week-end de juillet, on fait le repas de chantier. Et vous verrez, c'est une ambiance particulière et ça sera assez sympa parce que vous pourriez peut-être interviewer en fait ceux qui travaillent ici. Parce que bon, moi, voilà, moi je porte le projet, mais ceux qui comptent, c'est ceux qui travaillent ici. Puisqu'en fait, sans les entreprises, sans l'architecte, bien sûr, sans le ministère de la Culture, la Fondation du Patrimoine, la Mission Berne, ce projet n'existerait pas. Donc c'est bien aussi de leur donner la parole et puis de... Comme vous me disiez tout à l'heure, voilà, quel est leur ressenti de travailler pendant 7 ou 8 ans pour les certains maçons, en fait, sur quasiment le même chantier. Donc voilà, ça crée des émotions particulières et c'est intéressant peut-être de les entendre.
Eh bien, on prend le
rendez-vous. Allez. Merci Pascal, à bientôt. Merci.